Moi, quand je donne une canne, je mets mon âme dans le champ. Manuel El Negro, pas de doute, le meilleur de tous les gitans. Il passe sa vie sur la route, c'est le camionneur chantant. Pour être écouté, il faut effleurer le silence. Une affirmation pour conclure des passages de Letras Flamencas, un vers sous forme d'aphorisme que nous tâcherons de mettre en valeur au cours de cette émission exceptionnelle. Exceptionnelle car aujourd'hui, en ce jeudi 3 avril 2014, peut-être plus qu'à l'accoutumée dans Canal Flamenco, nous tenterons d'aller à la quintessence de l'art flamenco en y posant des mots. Les quelques vers de ce début d'émission sont tirés du roman Manuel El Negro, paru à l'automne 2013 aux éditions Fayard. Manuel El Negro, qui est le troisième roman de David Fockenberg, qui sera en notre compagnie durant cette petite heure. Bonjour David Fockenberg.
Bonjour.
Tout d'abord, en premier lieu, je m'associe à tous les aficionados flamenco pour vous remercier d'avoir écrit ce roman, Manuel El Negro, qui fait honneur au flamenco, qui est un art qui, malgré tout, reste, cela dit, assez opaque aux yeux du grand public. Et en deuxième temps, pour votre amabilité d'avoir avancé un petit peu votre arrivée à Toulouse, car demain soir, vous participerez à une séance de dédicace dans le cadre du Festival de Flamenco de Toulouse 2014 à la librairie Terra Nova en centre-ville. Donc, bienvenue.
Merci.
Donc, en guise d'introduction à cette émission, David Fockenberg, nous allons retracer brièvement votre parcours en donnant, si on peut appeler cela ainsi, quelques éléments d'idiosyncrasie littéraire pour mieux comprendre l'aboutissement à cet ouvrage, Manuel Negro. Vous avez fait des études de philosophie, puis enseigné cette discipline. Vous avez été critique de théâtre, reporter pour certaines revues telles que Géo, traducteur également, j'ai noté, du prix Nobel de littérature sud-africaine Nadine Gordimer. Et surtout, en parcourant votre biographie, ce qui frappe, c'est que vous aimez le voyage.
Certes.
Vous avez séjourné 2 années en Australie, en Patagonie et évidemment en Andalousie. C'est la terre aujourd'hui qui nous intéresse. Alors, première question, sous forme de qui, de la poule ou de l'œuf. Avez-vous eu l'idée de ce roman à partir de votre séjour en Andalousie, ou êtes-vous allé là-bas avec l'idée de l'écrire?
Alors, en général, la poule et l'œuf, on a du mal à trouver la réponse. Bah, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que l'Andalousie, ça a été un de mes premiers voyages quand j'avais 18 ou 19 ans, et je me suis tout de suite senti comme à la maison là-bas. C'est-à-dire que les attitudes des gens, la langue, la lumière, les endroits, ça m'a tout de suite emballé. Et à peu près au même moment, j'avais découvert, un peu comme tous les aficionados en France, c'est-à-dire que j'avais découvert Paco de Lucía et Camarón à la fin des années 80. Je faisais un peu de musique, donc forcément j'étais tout de suite captivé par les disques de ces deux-là, et puis par le fameux Friday Night in San Francisco auquel participait Paco. Et donc les deux se sont un peu mêlés, mais pendant une quinzaine d'années, c'est resté un goût, c'est resté une musique que j'écoutais, mais j'avais jamais eu l'idée d'écrire dessus. Et ça s'est fait un peu par hasard, comme toujours les sujets de roman, c'est-à-dire que à la fin de mon précédent roman qui s'appelle Maltiempo, qui n'a rien à voir puisque ça se passe dans le milieu de la boxe à Cuba, j'ai découvert que ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de créer des personnages qui incarnent des émotions, et si possible trouver un moyen par l'écriture de faire ressentir les émotions des personnages et des émotions qui m'intéressent au lecteur. Et tout de suite, évidemment, je me suis dit, c'est le flamenco le sujet pour faire ça, puisque c'est la base du flamenco, c'est de transmettre physiquement des émotions à un public. Et donc je me suis lancé dans quelques années de voyage en Andalousie, là pour le coup vraiment approfondi, d'aller voir qui étaient ces hommes, ces femmes qui pratiquaient cet art, et d'où venait cette émotion si forte qu'il y a dans le flamenco.
Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance encore de lire cet ouvrage, hein, Manuel El Negro. Manuel El Negro, c'est l'histoire de Melchor de la Peña, qui est un paio dans le roman, c'est-à-dire que il n'est pas gitan, mais il va vivre sa passion flamenca en côtoyant, en devenant ami avec un chanteur, un cantaor, qui s'appelle Manuel, donc dit El Negro. Alors il va rentrer dans cette famille, il va recueillir des conseils du père Tio Bernardo, Et donc c'est non seulement l'apprentissage, mais l'histoire donc de ce guitariste, hein, Manuel Negro. Alors il y a un appel téléphonique que je vais couper. Ce sont les aléas du direct à Canal Sud. Il y a toujours des...
C'est Melchior de la Peña qui appelle, oui.
Oui, ou alors c'est peut-être lui qui appelle, ou alors tout simplement, peut-être, je ne sais pas, des serveurs téléphoniques.
Oh non, là c'est beaucoup moins poétique.
C'est beaucoup moins poétique.
Non, moi je crois à l'existence réelle des personnages de romans, donc je suis persuadé que c'est un des deux qui vous appelait.
Ah, un des deux qui appelle. Voilà, donc justement, David, outre le fait, ce qui frappe en début du roman, Vous rentrez dans le vif du sujet avec le flamenco en parlant de la douleur, de la fatigue. Mm-hmm. Ça revient souvent dans la narration. Et en fait, on est aussi frappé par le fait qu'il y a la notion de compas, cette notion de compas qui est inhérente au flamenco. Et on s'aperçoit qu'elle sort même du cadre du flamenco, c'est-à-dire qu'elle rythme la vie des individus. Ce compas rythme la vie des individus.
Bah, il suffit d'être allé... J'ai passé beaucoup de temps, c'est le quartier où commence le roman, c'est le quartier de Santiago, à Jerez, qui est un des deux quartiers gitans, et qui, dans les années où commence le livre, c'est-à-dire la fin des années 50, les années 60, était vraiment un quartier purement flamenco. Pas seulement gitans, d'ailleurs, il y avait aussi des payos qui jouaient du flamenco, qui chantaient. Et il suffit d'avoir passé ne serait-ce qu'une heure dans un bar de Santiago, et de voir comment les gens tapent sur le comptoir en parlant, la manière dont ils racontent le match de foot de la veille ou font des plaisanteries, pour comprendre que ces gens-là vivent le rythme flamenco, mais vraiment c'est on le voit, c'est palpable, tous leurs gestes, toutes leurs attitudes, leur façon de parler. Quand vous êtes avec, j'ai passé pas mal de temps avec les jumeaux de la Tota, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont des palmeros assez connus, parce que c'est deux grands barbus de facilement 1m90 avec les cheveux longs, qui ont des t-shirts hard rock, donc c'est toujours on s'en souvient quand on les a vus. Et quand ils parlent, il y a un olé tous les trois mots, et c'est j'ai jamais mesuré évidemment, mais je suis persuadé que toutes leurs phrases sont sur les 12 temps de la bouleria, toutes. Il n'y a pas un moment où ils vont changer de rythme et tout, ils sont dans leur façon de parler, ils sont dans un rythme flamenco. Et c'est vrai que j'ai découvert là-bas que le flamenco, c'est pas seulement une musique, c'est pas seulement une danse ou c'est pas seulement la guitare, c'est vraiment une façon de vivre. Et qu'on peut pas... ça me paraît très difficile, par exemple, d'apprendre vraiment la guitare de flamenco ou d'apprendre vraiment la danse sans être allé là-bas. Parce qu'il y a aussi une saveur, il y a une façon de vivre ça, qu'on est obligé de puiser à la source. On voit tout de suite, les personnes qui ont fait cet apprentissage-là. C'est vraiment très frappant. Alors après, il y a une part d'hallucination, puisque c'est vrai qu'à force de passer des soirées avec ces gens-là, ça m'est arrivé de repartir de soirées de flamenco en voiture ou en bus et d'avoir l'impression que la voiture avait un rythme de bouleria aussi. Donc c'est vrai, après une nuit entière de palmas et de chants. Mais il y a quand même ça, il y a quand même l'idée que le flamenco, c'est un art de vivre, autant qu'une musique.
D'ailleurs, vous le citez dans le roman, alors je vais citer un passage. « Ils vont tantôt d'un pas joyeux sur les deux fois citants de la bouleria. » Tantôt, il s'éternise le front lourd de pensée au rythme d'une soléa. Manuel El Negro, c'était le compas incarné. Il mangeait, il éternuait dans le juste tempo.
Mmh. Ben, c'est des choses qu'on entend souvent quand les gens vous parlent des grands chanteurs. Parce que c'est vrai que quand on parle de compas, de rythme, on pense surtout à la guitare et à la danse. Alors que les grands chanteurs se caractérisent surtout par ça. Avant d'avoir la beauté de la voix ou la puissance de la voix, c'est vraiment le compas. Quand vous entendez Paco de Lucía, quand il parlait de Camarón, la première chose qu'il disait, c'est qu'il n'avait jamais vu un chanteur avec un tel rythme. Et je pense que la force de Camarón, il avait une voix puissante, magnifique, mais sa première force, c'était le rythme. Et donc ce Manuel, il incarne effectivement cette espèce d'énergie vitale, parce que le compas, c'est pas seulement 12 temps ou 10 temps ou 8 ans avec des accents à certains endroits, c'est aussi une énergie, c'est une façon d'habiter ce rythme. Et les gens là-bas disent souvent que le chant, il faut pas le compter, il faut le danser. Et c'est vrai que quand vous entendez des grands chanteurs andalous, et notamment gitans, il y a vraiment cet aspect-là. On a l'impression qu'il y a un swing. Dans d'autres musiques, on parlerait d'un swing. Là, on parle de tempo, on parle de compas, mais je pense que c'est vraiment la notion essentielle à cette musique-là. C'est cette espèce de rythme incarné qui est une vision du monde, presque.
On va dire qu'il y a une prégnance du compas dans la vie de tous les jours. Quoi.
Ah oui, exactement. Oui.
D'ailleurs, souvent, comme vous dites, dans les bars, quand ils chantent, quand ils tapent avec les
Et nous dios.
sur le comptoir pour ultimer le compas. Alors David, c'est une émission musicale. Alors vous avez choisi des titres qui illustrent justement, qui sont très très proches du roman. Vous avez choisi Manuel Soto pour commencer cette émission, El Suadera. Mm-hmm. C'est des Fandangos. Et vous nous parlerez de ce titre juste après, parce que je crois que vous avez des choses bien précises à dire sur ce titre. Alors vous êtes sur 92.2, l'émission durera jusqu'à 16h, exceptionnellement l'émission a commencé à 15h. Et vous pouvez, je pense que M. Fockenberg, David, est d'accord, vous pouvez l'appeler pour poser des questions à l'antenne,
bien sûr. En
direct. Alors, je ne sais pas si ce sera Melchior Lapena qui appellera.
Il a des comptes à demander. Oui.
Il a des comptes à demander. Alors, nous allons attaquer directement avec Manuel Soto, c'est pour Fandangos. Vous êtes sur 92.2. Manuel Soto. Les petites, voilà, la musique qui continue, c'est pas grave, nous sommes en direct. C'était Manuel Soto pour Fandango, c'était un titre choisi par David Fockenberg, qui est notre invité aujourd'hui sur le plateau de Canal Flamenco. Alors David, à la lecture de votre roman, je trouve que vous arrivez à casser certains préjugés qui ont la vie dure dans le monde occidental en ce qui concerne le flamenco. On a toujours l'impression que le flamenquiste improvise. Alors justement, vous venez de nous parler du compas, qui est très très carré, par exemple chez Camarón. Et vous en parlez de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une part d'improvisation chez le gitan, par exemple dans le regroupement. En fait, vous en parlez autour du début du roman, par exemple, où vous dites, dans les fêtes, vous parlez des fêtes improvisées, des juergas. Il suffit d'un feu, de trois cruches de vin pour commencer une juerga. Mais en fait, par contre, ce qu'on doit saisir, c'est que musicalement, le guitariste improvise à partir du moment où il y a tout de même une structure rythmique très carrée derrière. Et vous insistez sur ce point.
Mmh. Ben, c'est ce qui me fascine le plus, je crois, dans cet art-là. C'est que y a un mélange pratiquement inaccessible, qui est très difficile et qui est intéressant, par exemple, quand on écrit quelque chose qu'on recherche, c'est-à-dire une spontanéité totale, une émotion d'une profondeur incroyable. Et en même temps, le respect de règles rythmiques, de règles harmoniques, mélodiques, très très difficile, très compliqué. Alors certains vont vous dire que c'est pas si compliqué, mais c'est quand même de joindre ces deux choses-là, c'est-à-dire être totalement spontané, d'exprimer l'émotion du moment sans que ce soit superficiel, mais vraiment qu'on se lance dans un chant, tout en respectant ses canons rythmiques. C'est une équation pratiquement irréalisable. Et eux, ils y arrivent. Pas toujours, hein, mais quand le champ est bon, on arrive à cette équation, on la résout. Et c'est vrai que pour un romancier, c'est un sujet rêvé, parce que c'est ça que je recherche moi aussi. C'est-à-dire à la fois maîtriser une narration, la construction d'un roman, mais sans perdre l'émotion, que ça ne devienne pas une espèce de structure vide ou froide. Et donc le flamenco me fascine pour ça. Et même dans les fêtes, on a l'impression que c'est totalement spontané, mais je peux vous dire que, mais vous le savez aussi bien que moi, et tous les aficionados le savent, c'est que même à 4h du matin dans une huelga, celui qui ne respecte pas le compás d'une solea ou d'une buleria...
Il se fait jeter.
Mais parfois même littéralement. C'est-à-dire que moi j'ai vu ça dans les ferias, Utrera ou à Jerez, quand quelqu'un se lance dans le champ en n'étant pas armé, en n'ayant pas la maîtrise à la fois technique, rythmique du chant auquel il s'affronte, et ben en général, ça, il finit pas son couplet, quoi. C'est-à-dire qu'on l'arrête avant. Donc c'est vraiment... C'est Rafael Romero, je crois que le narrateur cite cette phrase dans le livre, qui disait « Pour chanter le flamenco, il faut du cœur et beaucoup de culture ». Et je crois que c'est vraiment, ça définit assez bien ce que c'est que le chant flamenco, c'est-à-dire que vous ne chantez pas à partir de rien, vous chantez à partir d'une transition, il faut connaître les styles, il faut connaître les différentes variétés de chaque palo flamenco. Il y a 50 ou 60 ou 200 sortes de buleria, elles ne se chantent pas pareil. Donc il y a vraiment un long apprentissage, mais qui est un apprentissage un peu instinctif, qui se fait d'oreille, qui se fait dans les fêtes, dans les longues nuits. On n'apprend pas le flamenco en écoutant des disques, hein, on l'apprend en le vivant. Et ça m'a vraiment fasciné dans les années que j'ai passé à errer un peu dans ces quartiers-là, dans les fêtes, dans les concerts aussi. C'est à la fois cette profondeur culturelle, c'est-à-dire qu'on connaît les gens quand ils chantent pas, vous racontent les histoires de chanteurs qui sont morts il y a 100 ans. J'ai une anecdote toujours que je raconte, parce qu'au début on me parlait toujours de Manuel Torre. Et il avait l'air tellement extraordinaire, cet homme qui faisait des choses extraordinaires, vraiment... qui refusait de descendre de son âne chez les seigneurs andalous, parce que lui c'était l'artiste et c'était au seigneur de venir lui ouvrir. Moi je trouvais ça magnifique. Et au bout de quelques semaines où j'étais là-bas, j'ai demandé où je pouvais le rencontrer. C'est-à-dire que les gens m'en parlaient comme s'ils l'avaient vu la veille, ils l'avaient entendu chanter la veille. Alors qu'en fait il était mort évidemment plus d'un demi-siècle avant. Donc la première fois que j'ai demandé où habitait Manuel Torre, on m'a un peu rionné, mais bon, ça faisait partie de l'apprentissage.
D'ailleurs, pour revenir un instant sur cette histoire donc de structure carrée du compas, on peut faire un parallèle avec le jazz aussi, parce que j'avais noté une déclaration d'un grand batteur de jazz qui s'appelle Max Roach. Alors je ne sais pas si j'écorche le nom.
C'est très très grand batteur. Oui.
Très très grand batteur, qui était considéré comme un mathématicien de la batterie jazz. C'était un maniaque du quart de soupir. Et il affirmait justement que l'exactitude était aussi un délire. On pouvait trouver le délire que si à un moment donné on était dans une exactitude rythmique parfaite. Hein. Et d'ailleurs il disait que c'était un chemin de braise et de ténèbres. C'est-à-dire qu'en fait, cette liberté, justement, vous qui êtes écrivain, on peut peut-être l'extrapoler aussi dans d'autres domaines de la vie. Cette liberté dans l'écriture, elle ne peut arriver, elle ne peut la ressentir que si aussi on a des bornes bien précises.
Bien sûr, mais c'est valable dans tous les arts. Hein. C'est Billy Wilder, je crois, qui est le grand maître de la comédie américaine au cinéma, qui a fait certains Lame Show que tout le monde connaît, et qui disait que plus une scène est délirante et comique, plus, pour que ça marche, il faut que ce soit d'une rigueur mathématique, la manière dont on la met en scène, les rythmes, à quel moment l'acteur passe devant l'autre et tout ça. Et quand on écrit, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand on se lance sur un sujet aussi apparemment débridé, un peu fou, un peu sauvage que le flamenco, parce que c'est quand même l'image qu'on a au départ, et puis elle n'est pas totalement fausse. Hein. C'est vrai qu'une soirée flamenca, quand vous avez une fête de famille, au bout de 3 jours, ça peut tourner quand même à quelque chose d'assez chaotique, même si c'est au niveau artistique, ça reste toujours cadré. Pour se lancer là-dedans, il faut effectivement, il a fallu que je trouve une narration, des personnages solides. C'est-à-dire, pour exprimer tout ce que je ressentais dans le flamenco, je ne pouvais pas faire quelque chose d'impressionniste et noter comme ça sur la page les impressions comme elles venaient. Il fallait que ce soit très structuré. Il fallait que la narration soit bien construite, que les personnages soient suffisamment profonds pour porter tout ça, pour porter toute la folie du flamenco. Donc ça, c'est exactement pareil qu'en musique. Effectivement, plus vous attaquez un sujet comme ça, à fleur d'émotion, qui est dans une sorte d'excentricité aussi des comportements, parce que c'est vrai que les gitans flamenco, quand vous les suivez pendant des mois, c'est quand même une épreuve physique, hein, faut quand même tenir le coup. Et donc ça exige, quand on écrit ça, d'arriver à resserrer la chose pour qu'elle tienne à peu près debout. Ouais. Mais c'est la même chose que ce que disait Max Roach sur le jazz, effectivement.
Alors, il y a aussi un élément dont vous parlez d'entrée de roman, quasiment, vous parlez de la fatigue. Alors la fatigue, bien sûr, c'est pas la fatigue, hein. c'est un faux ami, c'est la douleur du flamenco. C'est quelque chose qui revient, vous parlez d'agujetas justement au début, c'est l'élément fondamental pour chanter, parce que justement, je vais rebondir sur la prochaine illustration musicale, nous allons écouter Juanito Valderrama dans votre roman Manuel el Negro. Et à un moment donné, il y a un chauffeur de taxi qui parle de Juanito Valderrama, il dit cet homme il chante divinement bien, mais il ne souffre pas assez, quelque part. Alors est-ce que d'après vous, la douleur quand même est quelque chose d'incontournable dans le flamenco ou
Alors moi je dirais pas qu'il souffre pas assez, je pense que le sens de ça c'est que tout le monde souffre, hein. C'est pas qu'il y a pas que les gens qui font du flamenco qui ont des souffrances dans la vie, on a tous connu une rupture amoureuse, la perte d'un proche, bon ça c'est pas propre au flamenco, mais le propre du flamenco c'est qu'il refuse la superficialité des émotions et qu'on n'est pas dans une reproduction concert après concert de routine, de recettes. Le bon flamenco se mesure à la profondeur des émotions qu'il va chercher, à la sincérité des émotions. Et c'est vrai que moi, c'est ce flamenco-là qui m'intéresse le plus. Je ne suis pas très, très amateur du flamenco, peut-être plus virtuose, plus travaillé. Je ne suis pas très amateur non plus des grands ballets flamenco en danse. Je ne sais plus, je crois que c'est El Farruco, le vieux danseur, moi, que j'adorais. Enfin, quand on voit les vidéos, hein, je ne l'ai pas rencontré, évidemment, mais qui disait qu'aujourd'hui, les danseuses répètent jusqu'au sourire. C'est-à-dire que même quand elles sourient au milieu de la danse, c'est répété. Bon, moi, je ne suis pas très amateur de ça. J'aime bien la gravité. J'aime bien qu'on aille chercher des choses profondes parce que quand on fait n'importe quel art, quand on pratique n'importe quel art, je pense qu'on recherche, c'est un peu d'universalité. On ne cherche pas à raconter juste une petite histoire et tout ça, on cherche à soulever des questions un peu universelles. Et pour chercher des questions universelles, eh ben, il faut s'attaquer à des émotions profondes, parce que plus on va profond, plus on va chercher des émotions profondes, et plus elles sont communes à tous les hommes. Et dans le flamenco, c'est évident, puisque ça parle de quoi ? De la mort, du premier amour, du rapport à sa mère, du rapport à ses amis, donc c'est des choses qui sont absolument universelles. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'est vrai que la gravité du flamenco m'intéresse plus que des flamencos peut-être plus joyeux en profondeur, qui me touchent moins.
D'ailleurs, pour corroborer ce que vous venez de dire, il n'y aurait pas le jaleo qu'on appelle, alors pour les profanes, le jaleo c'est le fait d'encourager avec palmas celui qui chante, n'existerait pas si chaque fois c'était de la routine.
Alors ça existe, puisque ça existe même quand c'est de la routine, mais on le sent tout de suite.
Mais on le sent tout de suite, c'est-à-dire ouais. les aficionados...
C'est mécanique.
Voilà, exactement. Oui. Mais disons que le fait de vouloir rechercher une émotion, peut-être qui est nouvelle, de ne pas tomber dans une routine de chant, le jaleo est là justement pour dire « oui, non, tu n'y es pas ».
Alors soit pour dire ça, soit pour justement le raléo qui surgit, ça on l'entend aussi, même sur les disques, hein, parfois on entend le olé qui sort vraiment des tripes et qui est pas réfléchi, c'est pas je vais faire olé parce qu'il a bien chanté, c'est que ça sort, et dans les soirées, ce qui est fascinant quand vous êtes surtout dans les fêtes de famille ou des choses comme ça, c'est le moment où il se passe rien pendant 4 heures, 5 heures, et d'un seul coup à 3 heures du matin, même une petite vieille se met à chanter, ou n'importe qui, un gamin parfois aussi. Et vous avez 30 personnes qui sont en train de discuter, de boire un verre, et d'un seul coup, elles s'arrêtent de parler, et il y a une sorte de tremblement, une sorte de cri qui sort, et tout le monde fait olé au même moment. Au début, on n'y comprend rien, parce que nous, on n'a pas fait olé, on n'est pas assez sensible. Quand on découvre le flamenco, ça s'apprend, cette émotion. Mais justement, ça, quand le chant est profond, quand le chant est honnête et sincère, je pense que la sincérité, c'est un terme important dans le flamenco, vraiment ne pas tromper sur la marchandise. Ça se sent tout de suite. Et les raléos sont beaucoup plus sincères, beaucoup plus spontanés.
En fait, c'est vrai qu'en gros, la justesse ne se cherche pas. Elle se trouve, c'est un peu
bien
ça.
Bien sûr, c'est la difficulté de cet art.
On parle souvent de duende parce que c'est un terme un peu très... Ouais. Mais il ne se cherche pas. Le duende, il se trouve à un moment donné, alors à un moment peut-être là où on ne l'attend pas.
Justement, alors la fatigue dont vous parliez tout à l'heure, il y a... Ça, c'est lié quand même à la fatigue physique, c'est-à-dire que la fatiga, c'est évidemment, c'est en espagnol, il y a un autre terme pour définir, c'est le cansancio pour la fatigue physique, mais cette fatigue aussi, elle a un double sens dans les soirées de flamenco, parce que le chant vraiment, le chant qui vous met sur le carreau, il apparaît rarement à 9h du soir, c'est souvent vers 5-6h du matin quand on a désespéré pendant des heures d'entendre vraiment quelqu'un chanter sincèrement et profondément. Donc c'est lié quand même les deux. Hein. C'est ça, la douleur d'être, elle ressurgit quand même plus facilement à 5h du matin après avoir un peu usé les corps et les esprits. Mais bon, c'est lié les deux, hein, je pense. Voilà.
Ça m'arrive aussi, avant de faire l'émission, des fois je fais un marathon juste avant et j'ai fait de superbes émissions à Canard.
Ah, bien. Non, mais dans l'écriture, moi j'ai cette expérience-là aussi, c'est-à-dire qu'on passe des mois et des mois à écrire un roman et finalement les premiers mois souvent sont qu'une sorte d'échauffement. C'est-à-dire qu'on s'épuise à faire des choses qui ont aucun intérêt ou qui passent à côté, qui retombent à côté de ce qu'on veut faire. Et c'est seulement à partir du moment, en tout cas c'est mon cas, ou à partir du moment où on se dit là c'est, je ne vais pas y arriver, c'est pas du tout dans cette direction-là, que là on commence comme par hasard à écrire. Donc, mais c'est, on n'y arriverait pas sans les mois. Et de même qu'un grand chanteur de famille, quelqu'un qui n'est pas un artiste de scène, n'arrivera pas à chanter une soléa qui va faire pleurer 40 personnes s'il n'a pas massacré des bouleries à 1h du matin, s'il n'a pas écouté des chants atroces pendant 3h, tout ça, ça fait partie de, voilà, ça fait partie du package, comme on dirait aujourd'hui.
Alors, pour illustrer justement ce que vous venez de dire, précisément dans votre roman, à un moment donné, vous parlez de Tia Anika La Prignaca, mm-hmm. à qui il arrive justement ça. Elle chante dans un cabaret et elle se racle la gorge et elle fait pleurer tout le monde. Et nous allons écouter un titre de Tia Anika La Prignaca. Et ça va durer 2 minutes et nous poursuivrons cette conversation juste après sur Canal Flamenco, Tia Anika La Prignaca. La Prignaca dans une sigrilla. Alors le titre, bien sûr, était bien choisi. Y siento mi fatiga, nous étions justement dans cette conversation. Et je voulais vous poser, peut-être poser une question au philosophe hein, David Fockenberg. Est-ce que vous ne trouvez pas justement que dans le flamenco, on va pas rentrer dans une grande conversation philosophique et c'est pas le but, mais justement que il n'y a pas justement cette dichotomie joie peine, les deux sont mélangés dans le flamenco, les larmes et la joie sont mélangées.
Mmh, bien sûr, vous avez des chants très tristes, je sais pas, les sigirias qui arrivent le matin de bonne heure, qui provoquent des rires, des fous rires même, parce que c'est bon aussi. Je crois que c'est Moraito qui disait qu'aujourd'hui on avait peur de la peine, de la douleur, que c'était des choses qu'on voulait pas voir, qu'on voulait, c'est un peu l'ère de l'hédonisme aujourd'hui, il faut s'éclater, le fun, tout ça. Mais il disait, on a besoin de la douleur parce que la douleur vous fortifie l'âme. Je pense qu'il avait tout à fait raison. C'est-à-dire qu'un homme complet, c'est pas un homme que de joie et de bonheur. Il y a aussi les deux aspects. Et c'est pas forcément non plus tragique. La douleur, c'est quelque chose qui peut avoir un effet, qui peut former un caractère, qui peut vous donner goût aussi à la vie, par contraste. Et je crois que le flamenco, dans sa structure harmonique, hein, c'est ce que dit le narrateur, qui est un guitariste, donc qui connaît un peu ces choses-là dans le roman, il retrace un peu justement la naissance des harmonies du flamenco et le fait que c'est un mélange de mineur et de majeur, toujours. Alors soit on va du majeur vers le mineur, soit on finit sur le majeur. Et je crois que le fait que ces deux tonalités-là, la tonalité peut-être plus positive du majeur, plus immédiatement entraînante, joyeuse, le fait qu'elle soit toujours mêlée à cette tonalité mineure qu'on utilise dans la musique classique quand même pour des émotions plus mélancoliques ou plus la tristesse. Dans le flamenco, elles sont jamais pratiquement séparées. Vous avez des rondes de bouleria parfois dans les fêtes où quelqu'un qui ne connaît pas les letras ou qui ne comprend pas l'espagnol va avoir l'impression qu'on est en train de chanter des choses absolument joyeuses, alors que le chanteur, pour bouleria, va vous chanter la mort de sa mère ou la disparition de son premier amour. Enfin, donc, c'est toujours très mêlé et moi je trouve ça très sain, cette idée qu'il n'y a pas qu'une dimension à la vie. Que la vie, elle est à la fois désespérée et pleine de bonheur. Moi, je trouve ça assez sain. Je pense qu'on ne peut pas être un homme complet sans avoir ces deux gammes d'émotions.
Alors, je parle de philosophie justement parce que vous avez voyagé en Asie, David. Ce sont des terres qui sont bercées tout de même par des religions plutôt mystiques. Mmh. Et justement, je trouve que le flamenco rapproche plus des musiques orientales, justement. Mmh. Alors, vous avez parlé, bien sûr, des tonalités mineures et majeures, mais aussi la structure des gammes. Hein,
bien sûr.
Ce sont des gammes griegas, comme on dit en espagnol. C'est-à-dire qu'en fait, pour les profanes, ce sont des gammes en fait, où on descend vers la tonique. Hein. C'est-à-dire c'est d'une manière tout à fait différente de jouer la musique.
Bien sûr. Et puis cette façon que le flamenco, surtout au chant, cette façon que le chant flamenco a de jouer autour du ton, qui est d'ailleurs parfois, on a l'impression quand on connaît pas le flamenco au départ, hein, quand on écoute Inés Bacan ou des gens qui ont vraiment un chant comme ça, un peu ancien, on a l'impression que c'est faux par moment, parce que justement on n'arrive pas pile sur le ton, il y a des quarts de ton, on tourne autour. À la guitare, quand vous écoutez les granainas ou des choses comme ça, c'est vraiment, on va chercher des espèces d'arabesques qui font beaucoup penser à la musique orientale, à la musique indienne. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne suis pas un musicologue, et je me garderais bien de trancher le débat sur les origines précises des harmonies flamencas. Mais c'est vrai que ce qui est fascinant dans cet art-là, c'est que, je dirais, c'est presque une des seules musiques un peu orientales qui nous est accessible, parce qu'elle s'est mêlée aussi à des mélodies espagnoles. Il y a eu un mélange entre les mélodies, enfin, dans le chant, on sait très bien qu'il y a des mélismes qui sont un peu hérités de la musique juive, des musiques mozarabes. Ça, les musicologues l'ont dit. Et c'est vrai qu'il y a un mélange, c'est une fusion, le flamenco, qui nous donne peut-être accès à des émotions qui sont exprimées dans un langage qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de la musique classique européenne, et qui pourtant arrive à vous toucher. Moi, j'ai beaucoup plus de mal, par exemple, avec la musique indienne, avec certaines musiques du Maghreb, qui me sont beaucoup moins accessibles, parce que peut-être il n'y a pas eu cette fusion, justement, de genres qui nous appartiennent un petit peu, qui font partie de notre culture, avec des genres qui sont totalement étrangers à notre culture. Je pense que c'est une des forces du flamenco, justement, d'avoir réalisé cette fusion.
Aussi qu'il n'y ait pas eu de barrière, je dirais, morale sur la musique, parce que la musique occidentale, tout de même, ça a été chapeauté un petit peu par l'Église catholique pendant très longtemps. Hein. Mm-hmm. Et on s'aperçoit, si on écoute Sabicas, par exemple, dans certains morceaux de Sabicas, il enchaîne des fois des octaves, 3 ou 4 octaves à l'affilée, ou des quintes, 3 ou 4 quintes d'affilée, alors qu'en musique classique, si vous prenez la théorie classique, c'est interdit. Vous composez ça au conservatoire, on met dehors, quoi.
Mais je pense que le flamenco, on peut parler des gitans flamenco, mais pas seulement eux, peut-être que leur principe de vie numéro un, c'est de faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Vous savez, il y a ce fameux couplet de Patanegra dans les années 70. Tout ce qui me plaît est illégal, immoral ou fait grossir. Il y a un peu cet aspect-là dans la culture flamenca, c'est-à-dire faire tout ce qui n'est pas permis. Faire les choses à sa manière comme on le sent, mais sans respecter des règles imposées de l'extérieur. Et c'est vrai que dans la musique, on le reconnaît, ça. Dans la musique, on le reconnaît. Je crois que c'est Rubinstein, enfin, ou un grand comme ça, musicien classique du XXe siècle, qui disait ce qui est extraordinaire dans le flamenco, c'est qu'ils font n'importe quoi, ils font tout. Alors, il parlait du groupe flamenco avec les palmeros, la guitare et le chant. Et il disait, ils font tous n'importe quoi dans leur coin. On a l'impression qu'ils sont totalement. Et à la fin, ils sont tous ensemble. Et je pense que c'est ça, c'est un des miracles du flamenco, parce que c'est vrai qu'il y a une liberté totale quand vous êtes à Jerez dans les fêtes, c'est incroyable les palmas. C'est-à-dire que ce n'est pas des palmas, on vous apprend en France à l'école de palmas ou à l'école de danse, on vous apprend les palmas, le temps, le contre-temps. Là-bas, c'est, on a l'impression que c'est totalement chaotique. Mais quand vous mettez 4 ou 5 personnes ensemble faisant des choses totalement chaotiques chacun dans son coin, ça donne un résultat absolument merveilleux qui fascinerait un Max Roach ou un autre jazzman
oui, parce
sans
qu'il
aucun doute.
Le problème, c'est qu'ils retombent vite sur leurs pattes.
Ils retombent toujours sur leurs pattes.
Parce qu'en fait, si vous apprenez des palmas par cœur et que vous perdez le fil à un moment donné, mais je suis là sur quel tas.
Mais parce qu'ils vivent, ce rythme-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, encore une fois, cette idée que le rythme, ça se danse. Le rythme, ça ne s'apprend pas, il faut le digérer. Les gens vous disent souvent là-bas, hein, j'ai rien inventé dans ce livre de toute façon, c'est tiré de ce que m'a donné le flamenco, de ce que m'ont donné les flamencos aussi. On vous dit souvent qu'il faut dormir flamenco, se réveiller flamenco. Moi j'avais un professeur de guitare, j'avais essayé un peu la guitare, il me disait, mais David, si tu veux jouer de la guitare, il faut se lever le matin en étant guitariste. C'est pas seulement faire tes 3 heures de gamme et jouer pour préparer le cours, c'est que tu dors en étant guitariste, tu te réveilles en étant guitariste. Et il y a des vieilles photos du guitariste de Morón, un peu mythique, qui s'appelle Diego del Gastor. Il y a des photos de lui à 5 heures du matin dans les fêtes, où il est en costume blanc. Alors c'est le désastre autour, hein. Il y a des papiers gras partout par terre, des restes de nourriture, des verres cassés, comme partout dans les bars à 5 heures du matin en Andalousie. Et lui, il se penche au-dessus de tout ça pour boire son café en levant presque le petit doigt avec une élégance merveilleuse. Et là, je pense qu'on comprend vraiment pourquoi il est ce guitariste-là. C'est que sa manière d'être, son attitude générale dans la vie, il a cette élégance qui est aussi celle du musicien. Et je pense que c'est vraiment une musique où on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier la manière de vivre, la manière d'aborder le monde et la manière de pratiquer l'art. C'est vraiment une seule et même chose.
Alors David, nous allons faire une pause musicale. Nous avons écouté 2 titres consécutifs. Nous allons faire une petite pause de 5-10 minutes. Le temps de boire un verre, de prendre... Je vois des bouteilles de whisky sur la table. Mais... Parce qu'il y a du public, en fait, et qui est venu vous écouter, David, aujourd'hui. Alors, nous allons écouter Juanito Valderrama, et juste après, nous écouterons un titre que vous avez choisi, c'est d'Ignès Bacan. Mm-hmm. Voilà, et donc, on reprend cette conversation d'ici 5-7 minutes, à peu près. Voilà, donc, si vous avez toujours des questions à poser à David Falkenberg, n'hésitez pas à appeler, si possible, pendant les pauses musicales. Ça évitera de donner petit son pendant la conversation. Voilà, c'est Juanito Valderrama sur 92.2.
Yo la vi, ella no me vio. Estaba comiendo mango sentada en el balcón. Yo la vi, ella no me vio. Estaba comiendo mango sentada en el balcón.
Bacan. un titre choisi par David Fockenberg qui nous accompagne aujourd'hui à Canal Sud durant cette heure de Canal Flamenco. C'était une solea por bulerías d'Inés Bacan que vous avez croisé, me semble-t-il.
Oui, moi j'aime beaucoup le chant d'Utrera, c'est vraiment surtout les soleas, donc la Fernanda, tout ça. Elle est de Lebrija, mais c'est la même école, un petit peu le chant un peu mélancolique, comme je disais tout à l'heure, qui tourne un peu autour du ton. Quand on l'écoute au début, Inés, on a l'impression qu'elle sort un peu du ton par moment. Et puis aussi, sur ce disque, l'accompagne Antonio Moya, le guitariste, qui est devenu un ami très cher parce qu'il m'a beaucoup aidé dans ce projet. Il m'a emmené un petit peu avec lui sur les routes d'Andalousie, dans les fêtes, les concerts dans les petites peñas, des petits villages andalous. Et qui est un type absolument remarquable, puisqu'il est né à Nîmes, d'une famille espagnole. Et puis le chant l'a appelé en Andalousie. Il a épousé une gitane d'Utrera, Marie Peña, qui est une grande chanteuse aussi. Et c'est quelqu'un qui vraiment consacre sa vie au chant, qui passe son temps à apprendre des vieux chants, qui, dès qu'il peut, va voir les vieux pour essayer de récupérer un style qui est un peu oublié. Donc, qui m'a appris beaucoup de choses sur le chant. Et qui a ce jeu, justement, ce que j'aime beaucoup, moi, dans la guitare flamenca, c'est l'accompagnement. Je ne suis pas très fan des solistes en flamenco. Je pense que la vraie beauté de la guitare de flamenco, c'est cette écoute qu'il y a entre le chanteur, le guitariste, qui est un peu l'histoire du livre, puisque c'est vraiment cette amitié. Je pense qu'il y a une vraie amitié. On ne peut pas jouer avec quelqu'un, on ne peut pas accompagner, faire un duo chanteur-guitariste sans qu'il y ait une amitié, parce qu'il faut être capable de comprendre les émotions de l'autre, d'anticiper sur ses changements d'humeur dans l'instant, comprendre à la moindre intonation ce qui va se passer dans la seconde suivante. Et Antonio Moya, pour moi, ça représente tout ça. Puis j'aime beaucoup ce chant, j'aime beaucoup le chant d'Utrera et de Lebrija, qui a quelque chose de très profond. Dans le livre, le narrateur s'en amuse un peu en disant que c'est des dynasties de bouchers dans ces villes qui ont perpétué la tradition du chant et qui a vraiment beaucoup de chair et de sang, évidemment, puisque c'est des bouchers, mais il y a vraiment quelque chose de ça. Quand on chante à Utrera, c'est jamais léger, c'est jamais du divertissement, c'est toujours quelque chose de très, très grave. Et moi, ça me fascine assez.
On revient un peu à ce qu'on avait dit au départ, au début de cette émission, à cette connotation sociologique. C'est-à-dire que chaque palos raconte des histoires. Alors, vous parlez des bouchers, ça peut être pour la cigueria, c'est les forgerons. Mm-hmm. Si on ne comprend pas ça, si on ne connaît pas ces histoires-là, c'est difficile de rentrer vraiment dans la chair.
Oui, bien sûr. Ou les chants du Levant, qui sont des chants de mineurs. C'est vrai qu'on a l'image, parfois, peut-être, du flamenco comme une sorte de cri spontané, une sorte de... Je crois que le studio est en train de s'effondrer autour de moi. Quelle fatigue.
Oui, je suis d'ailleurs très fatigué. J'entends des bruits.
Vous allez pouvoir chanter bientôt. Alors.
Non.
On a peut-être l'idée justement des clichés sur le flamenco. C'est une sorte de cri sauvage, spontané, d'une joie de les gitans, comme ça, chantant autour du feu. Alors que c'est vraiment le... C'est ce que dit le narrateur au début du livre, c'est la culture d'un peuple qui travaille. C'est la culture de deux peuples qui travaillent, puisque justement le flamenco est né de la rencontre entre les gitans qui sont arrivés en Andalousie et le peuple andalou. Ça s'est passé dans les franges les plus pauvres de la population, dans les faubourgs des villes, là où il y avait les artisans, là où il y avait les paysans journaliers qui faisaient le tour des terres comme ça en Andalousie. Et le flamenco, il est né de ça. Et c'était aussi, je le savais pas quand j'ai commencé l'écriture de ce livre, mais c'est vrai qu'écrire un livre, un roman autour d'une musique qui est l'histoire de l'amitié entre un peuple gitan qui arrive en Andalousie et le peuple chez lequel il arrive et avec qui il arrive à créer une culture commune et à créer cet art si beau, je pense que c'était pas tout à fait inutile par les temps qui courent. Il se trouve que moi j'étais en Andalousie au milieu de ce projet quand j'ai entendu certains discours à Grenoble. Sur les gitans en général, sur des choses comme ça. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte finalement que c'était pas totalement inutile d'écrire une histoire d'amitié entre les peuples plutôt que de perpétuer cette espèce d'idée d'opposition systématique entre les différentes cultures.
Et puis nous sommes dans un monde où l'image prédomine.
Bien sûr.
Et donc, vous parliez d'authenticité, je vais citer une lettre qui est dans votre roman. C'est une lettre de Pastor Pavón. Est plus connue, la célébrissime La Niña de los Peines. Je voudrais renier ce monde et renaître à nouveau pour voir s'il en existe un autre, où l'on rencontre un peu de vrai.
Mmh. Ah mais c'est... Alors ça c'est une des autres raisons qui m'ont poussé à écrire ce roman, c'est la beauté des couplets, des letras du flamenco, des couplets comme ça traditionnels dont on ne sait pas pour la plupart d'où ils viennent, qui sont anonymes. où on devine bien qu'il y a des éléments qui viennent de très loin, puisqu'on vous parle de géants morts qui envahissent Grenade, on vous parle de, des juifs qui montent à la synagogue, alors donc ça remonte au Moyen-Âge, ça remonte avant l'expulsion des juifs et des morts. Et puis il y a ces vers qui ont été raffinés par le temps, c'est-à-dire chaque interprète le pliant un peu à sa voix, à son rythme. Il y a une pureté rythmique, une pureté de l'image qui est absolument magnifique et qui se retrouve même dans la conversation des flamencos. C'est-à-dire que les flamencos en Andalousie ont une façon de parler très particulière. Il y a des expressions que vous entendez qui sont absolument extraordinaires, que je notais pas au fur et à mesure, mais il y en a qui me sont restées, à avoir plus fin qu'un escargot sur un miroir... quand on refuse un verre à 3h du matin à quelqu'un, il vous dit que c'est anti-esthétique d'un seul coup, comme ça, c'est des choses, tu peux pas me refuser ce verre parce que c'est anti-esthétique. J'ai entendu Fernando de la Morina dire ça à une jolie fille qui refusait son verre. Et il y a beaucoup d'expressions comme ça, mais, et puis dans l'humour aussi. Quand on entend quelqu'un dire celui-là, il est plus paresseux que le garde du corps de Kennedy, bon, il y a des, comme ça des images qui surgissent. Et je pense que c'est parce que ces gens savent tellement de lettres, ont tellement appris ces couplets, que ça a fini par s'imprégner même leur conversation.
Ils se les approprient.
Ils se les approprient. Et alors, ce qui est très étonnant, et ce qui est, dans le livre, je l'ai utilisé, c'est-à-dire qu'à un moment, le chanteur se met à parler, et lui, il parle en flamenco. C'est-à-dire que la plupart des choses qu'il dit dans ce passage, c'est des couplets, des vers flamenco. C'est que j'entendais les gens dire des choses merveilleuses pour me rendre compte ensuite que ce qu'ils m'avaient dit, et je pensais que c'était vraiment une parole sage qui avait surgi comme ça, c'était l'extrait d'une lettra flamenca.
Ouais.
Le temps vit, vous connaissez cette lettra magnifique où le temps voit l'amour et lui dit « Ta belle superbe vois-tu, je saurais en venir à bout ». Alors pour résumer en trois vers la difficulté de faire survivre l'amour au temps, c'est difficile de faire mieux.
Tout à fait, oui. Alors David, l'heure passe très vite. Je crois que tout le monde s'en aperçoit. Vous avez choisi notre titre auquel vous tenez parce que vous appréciez vraiment Moraito. Nous avons parlé. Mm-hmm. Alors, j'aurais juste avant d'écouter ce titre de Moraito avec El Torta.
Oui, les deux grands qui nous ont quittés il n'y a pas très longtemps.
Oui, malheureusement.
On se demande même où ils vont tous avec Paco de Lucia qui a suivi peu après.
Et justement, vous parliez de... J'aurais juste une question, justement. Est-ce que vous ne pensez pas, vous avez parlé de la virtuosité, que finalement, vous n'aimiez pas la virtuosité froide.
Mm-hmm.
Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que quand on recherche... C'est justement parce qu'on recherche trop la virtuosité qu'on a du mal à être authentique.
Bien sûr. Paco de Lucia, qui était sans doute celui qui a lancé cette mode. Alors évidemment, il y avait Sabicas avant. Hein. On a tendance à penser que la virtuosité est née avec... Mais quand vous écoutez le Nino Ricardo ou Sabicas, c'était déjà quand même des guitaristes très solides. Bon, Paco, il a porté ça à un degré dans les gammes absolument invraisemblables. Mais je pense que la virtuosité de Paco de Lucia venait d'une rage. Il l'a toujours dit, la rage du gamin qui est né dans une famille pauvre, dans une ville pauvre d'Andalousie, qui est obligé de quitter l'école à 9 ou 10 ans pour vivre de sa musique et qui n'a jamais eu l'occasion d'acquérir cette culture qu'il voulait tant acquérir. Et dans sa musique, sa musique est virtuose et rapide et brutale et rageuse parce que c'est une rage qu'il ressent. Et la chose extraordinaire avec Paco de Lucia, c'est qu'il joue à 2000 à l'heure, mais toutes les notes, on a l'impression qu'elles sont senties, qu'elles expriment quelque chose. C'est pas une mitraillette du flamenco comme on peut parfois en entendre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ressentait vraiment sa musique.
Il allait très très vite dans les gammes, alors il avait une capacité de ressentir les choses.
Ouais, je pense qu'il ressentait effectivement. C'est des gens qui n'ont pas seulement une capacité technique, c'est des gens comme Camarón, des gens comme Paco de Lucia, c'est des gens qui avaient une sensibilité extrême. On le voit d'ailleurs quand on entend parler, enfin quand on entendait parler, j'ai du mal à en parler au passé, mais quand on entendait parler Paco de Lucia, on sentait que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, qui avait une sensibilité au monde, qui avait même l'air un peu comme ça, sur la défensive, quand on l'interviewait ou quand on le rencontrait. Je pense que c'est des gens qui ont une sensibilité supérieure à la moyenne.
Alors juste avant de conclure, David, cette émission, nous allons parler demain de votre intervention à la librairie Terra Nova à Toulouse, dans le cadre du Festival Flamenco.
Oui.
Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de faire l'agenda, mais...
Un beau programme.
Et nous allons écouter donc El Torta.
Alors c'est à 19h hein, demain.
C'est à 19h, je vais le dire tout à l'heure. D'accord. Pour que les gens ne se trompent pas de librairie. C'est jamais. c'est El Torta accompagné à la guitare par Moraito. Alors, nous en avons parlé juste hors antenne. Moraito, c'est un guitariste que vous appréciez vraiment plus particulièrement.
Oui, que j'admire énormément.
Voilà. Qui est également parti, malheureusement.
Mais imaginez la fête qu'il y a là-haut le soir. Parce que si vous avez Paco de Lucia, El Torta et Moraito dans la même pièce tous les soirs, ça doit être quand même, ça doit swinguer quand même. Hein.
Le bon Dieu ne doit pas s'ennuyer.
Non.
Voilà, donc pour terminer cette émission, El Torta accompagné à la guitare par Moraito.
pregunte dónde vengo. No me diga lo que siento, yo solo te quiero amar. Y bésame con tus labios, beso fresco, que quiero sentir contigo y me ha vuelto enamorado. Abrázame. Y abrázame. Y arma un sitito en tu cama, que quiero vivir contigo y hasta el punto que me amo. Abrázame. Y abrázame. Métete dentro de mí, que yo voy a gozar en tu entraña. Así mi cuerpo se sentirá feliz como la espuma del agua. Y abrázame. Métete dentro de mí, que yo voy a gozar en tu entraña. Así mi cuerpo se sentirá feliz como la espuma del agua. Yo quiero abrazarte, quiero abrazarte y acariciarte. Quiero abrazarte y acariciarte y con mis labios poder besarte. Yo quiero abrazarte y acariciarte. Quiero abrazarte y acariciarte y con mis labios poder besarte. Yo quiero abrazarte y acariciarte. Quiero abrazarte.
El Torta. El Torta acompañé a la guitare par Morraito. Et pour finir cette émission Canal Flamenco, juste une précision, les émissions à partir de depuis quelques semaines sont disponibles sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net. Vous pouvez donc les écouter en podcast. Dans cette émission avec David Fauquemberg sera présente demain sur le site de Canal Sud et également sur notre Facebook Canal Sud FM Canal Flamenco. Voilà, c'est une précision d'importance. Et David, juste avant de conclure avec vous, demain soir, vous serez à la librairie Terra Nova. Alors, ça s'y situe 18 rue Gambetta à Toulouse. C'est la rue, donc, tout près du Capitole. Alors, c'est au 18, c'est juste quasiment à l'intersection de la rue Gambetta et de la rue Pérolière, pour ceux qui connaissent bien Toulouse. Hein. Voilà. C'est à partir de 19h. Séance de dédicace, il n'y aura pas de débat.
C'est un peu plus que ça, c'est-à-dire c'est une rencontre avec une intervieweuse hein, qui s'appelle D'accord. Véronique Pagès. Et puis, je lirai des passages aussi du roman.
Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, au 05 61 21 17 47, hein, c'est le numéro de la librairie. Merci infiniment, David, d'être venu nous faire partager votre passion du flamenco, votre vécu aussi.
Merci à vous.
Et merci encore une fois d'avoir écrit cet ouvrage pour tous les aficionados et pour les autres aussi.
Bon, je devais bien ça au flamenco quand même.
Merci, merci à vous encore et bonne route.
Merci.
Voilà, donc juste une précision, la semaine prochaine, émission normale, et dans 15 jours, ce sera une émission spéciale sur Sabicas. Je laisse la place à l'émission suivante. À très bientôt.